Salut François Gagnon.
Bonjour.
Donc le Cirque du Soleil va rester québécois, on dirait.
Ben, c'est un peu ce que laissait entendre le premier ministre Legault qui visitait ce matin la coop culturelle Pop, là, qui s'était offert au début de la pandémie pour faire des masques. Il y avait une ouvrière, une travailleuse du Cirque du Soleil qui a posé la question « Coudonc, vous faites quoi pour le cirque? » Il a répondu, comme ils disent en anglais, « Stay tuned. Dans les prochains jours, vous allez être contente. » Alors, on le sait, le cirque, là, c'est détenu par 80% par des étrangers, mais lui, ce qu'il prétend, c'est que ça va rester québécois. Mmh. On le sait déjà que...
Tu penses qu'il va acheter québécois?
Ben, je sais pas. Est-ce que Guy Laliberté pourrait revenir? Parce que dans sa lettre, il y a deux semaines, il a dit, oui. Mais ça me tenterait. Tu sais, il vaut 1,2 milliard, Pecopé en vaut 1,5. Est-ce que il pourrait y avoir une association des deux? On ne sait pas, hein? Et on est prêt même à aller jusqu'à 200 millions de dollars du côté de Québec pour aider justement à ce transfert-là, mais avec des conditions, bien sûr, comme le maintien du siège social, la propriété intellectuelle au Québec. Mais semble-t-il que la semaine prochaine, il pourra peut-être avoir des bonnes nouvelles. En tout cas, on va regarder ça comme ça pour l'instant. Il y a quand même 95% des personnes qui travaillent au cirque qui ont été mises à pied. 44 spectacles qui sont suspendus à nouvel ordre. Mais tu sais que le plan de PKP, c'est de dire, ben tous les spectacles qui sont pas fixes, ben peut-être qu'ils pourraient disparaître. Ça serait une façon de remettre sur les pieds et sur les rails le Cirque du Soleil, mais... Ça serait quand même une bonne nouvelle, ça resterait chez nous. T'sais, la Caisse des dépôts est certainement en arrière de ça, elle qui détient 20% des actions là-dedans.
Parfait, OK. Parle-moi d'une preuve de plus là que le coronavirus ça... fait mal aux ventes au détail.
Oui, tout à fait, et ça fait très, très mal au mois de mars. On n'a pas vu le mois d'avril encore. Au mois de mars, les véhicules automobiles, c'est sûr que les magasins de vêtements puis d'accessoires, là, ça a planté, là, c'est plus que 50% de baisse. Mm-hmm. 35%, presque 36% pour les pièces automobiles. Les accessoires de maison, PME, 25%. Musique livre, moins 24%. Les stations-service, ben là, tu sais, tu roulais moins, t'as pas besoin d'essence, donc moins 20%. Et si on a eu une baisse de 10% au Canada, au Québec, c'est encore pire, on parle de moins 15%. Et ça explique peut-être pourquoi il y a plusieurs grands détaillants qui commencent à plier des genoux. On l'a vu avec Aldo assez rapidement, d'ailleurs, dans la crise. On l'a vu cette semaine avec Reitmans. Il y en aura probablement d'autres parce qu'on est en train de se chicaner avec bien des propriétaires de locaux de commerciaux qui ne veulent pas céder un pouce aux entrepreneurs qui ont demandé l'aide de loyer. Ils veulent pas, absolument pas. Alors, on l'a vu à par exemple, la vie en rose la semaine passée avec François Roberge qui disait que ben c'est de valeur, mais moi, je paye pas. Je payerai pas non plus. Et s'il faut faire d'autres choses, ben on fera d'autres choses, mais pour l'instant, il n'est pas question qu'on paye. Alors, il n'y a pas d'entrée d'argent, puis malheureusement, ça coûte trop cher. C'est 5 millions par mois juste pour lui, là. Imagine-toi. Là, c'est
François,
c'est de l'argent bébite.
Explique-moi quelque chose, là. Explique-moi la logique, tu sais, parce que on le voit à grande échelle, là, dans des centres d'achat, puis on le voit à petite échelle dans des... pour ce qui est des commerçants qui ont pignon sur rue. T'as des propriétaires intransigeants, OK? Puis là, ils disent, non, tu me payes tout le loyer, puis il n'y a pas de négociation. Parfait, c'est une position.
Oui.
Je disais, si le locataire s'en va...
Ou s'il fait faillite.
Qui gagne là-dedans? Parce qu'à reprise, là, je veux dire, l'espace qui serait laissé vacant par la vie en rose, là... Il n'y aura pas 10 nouveaux start-up qui vont essayer d'avoir un local, là.
Non, non, tout à fait. Et je comprends pas la logique derrière tout ça non plus. Écoute, moi, j'ai toujours pour dire un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ben, tu sais, si le locataire perd 25%, ben, tu sais, il va quand même récupérer 75%. Tu sais, il y a quand même quelque chose là. Tu sais, le truc là-dedans, l'idée là-dedans, c'est que tout le monde s'en sorte avec le minimum de mal possible. Alors, je comprends pas pourquoi qu'un locataire soit si intransigeant et accule des entreprises à la faillite. Il est pas gagnant là-dedans. Au contraire, il est même très perdant. Alors, je vois pas la logique là-dedans.
Est-ce que tu vois les choses de la même façon que moi, là? Je veux dire, si tu mets ton locataire à la porte ou qui fait faillite parce que t'as contribué à empirer sa situation... C'est-à-dire, l'économie étant ce qu'elle est puis ce qu'elle va être, il y aura pas beaucoup de gens qui vont reprendre ce local-là. Là.
Puis en plus, le problème, c'est que les pieds carrés coûtent extrêmement cher. Là, ce que l'on voudrait faire, en tout cas, on essaie de renégocier ces baux-là. As-tu déjà vu un bail commercial, comment c'est épais? Ça n'a pas trois pages comme un bail.
Ah oui, hein? Bail, c'est complexe?
Non, c'est très complexe. C'est écrit en langage juridique, c'est épouvantable. Il y en a des pages et des pages et des pages d'amusement là-dedans. Là, ce qu'on voudrait faire, c'est de renégocier avec un pourcentage des ventes. Tu sais, quand t'as bien beau ouvrir, là, regarde, à Québec, c'est ouvert, là. Puis ça ouvre, mais la clientèle est pas là, là. Tu sais, les ouéreux qu'on voyait avant, là, tu sais, qui étaient peut-être tentés d'acheter, ils achètent pas, ils vont pas. Tu sais, fait que les loyers commerciaux, tu sais, si t'es au plein prix, ben, tu te retrouves avec des entreprises qui sont fragilisées, puis s'ils sont trop fragilisés, ben, ils vont aller voir le syndic, puis ils vont faire faillite, that's it. C'est ça, l'affaire, là.
OK. On a, la semaine passée, toi et moi, on a parlé de la prime de départ d'Alain Bellemare, l'ancien PDG de Bombardier.
J'ai eu des discussions le lendemain avec les gens de Bombardier, d'ailleurs. Ils n'ont pas aimé ma chronique.
Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était faux dans ta chronique?
Absolument pas. Et d'ailleurs...
À quoi s'objectait-il?
Ben, à quoi, tu sais, regarde, c'est parce qu'il a négocié de bonne foi. Oui, c'est vrai qu'Alain Bellemare a négocié de bonne foi, mais ils l'ont sacré dehors. Tu sais, garde, écoute, là, si tu te fais mettre dehors au 98,5, ou si moi je me fais mettre dehors, tu penses-tu que je vais avoir 4-5 millions pour pas partir? Voyons, ça n'a pas d'allure, ça, cette histoire-là. D'autant plus qu'il a négocié le démantèlement de Bombardier, puis on va lui donner en plus au surplus 4,9 millions si la vente du côté ferroviaire se réalise avec Alstom. Ça n'a aucune commune mesure. Puis d'ailleurs, Willy Gagnon, qui est le directeur du mouvement d'éducation et des défenses des actionnaires, le MEDAC, qui mentionnait pas plus tard qu'hier à LCN que, écoute, on pourra pas rien faire. On peut pas rien faire. C'est pas la première fois qu'on en parle, puis c'est pas la dernière qu'on va en parler de ces folies de salaire chez Bombardier, qui est une entreprise qui est en déconfiture totale. Alors, mais il y a un vote des actionnaires qui va se tenir le 18 juin prochain, puis là, va falloir que les actionnaires y aillent, puis qu'ils se disent, ben écoute, ça a pas de bon sens, votre politique de rémunération, parce que c'est soumis au vote, puis c'est un vote consultatif qui oblige pas le conseil d'administration. Mais là, tu sais, regarde, si t'avais 90% des actionnaires qui disaient, garde, ça fera, on n'en veut plus, puis là, peut-être qu'il sera obligé d'en prendre acte à ce moment-là. Alors, peut-être qu'il y aura un changement. Mais remarque qu'il y a déjà eu un changement, parce que l'entreprise est beaucoup plus petite. M. Martel va gagner pas mal moins cher. Le conseil d'administration, pendant la COVID, ne se prend pas de salaire non plus. Il y a des gestes concrets qui sont en train de se poser, mais insuffisants pour éviter qu'à l'avenir, on ait des folies comme on a eu au cours des dernières années. Tu sais, je reviens encore à 2019 ou 2018, si je me rappelle bien, quand on a vendu, ben en fait, que on a créé le consortium, là, Bombardier, Airbus, et puis, tu sais, on a injecté des milliards dans cette entreprise-là, et on apprend après que les dirigeants se prenaient, ils jouaient carrément dans le top bonbon.
Mais même s'ils ont été sauvés par le gouvernement, pas capable de se financer dans le marché, ils sont quand même versés tous les bonnies auxquels il y avait.
Ouais. Mais là, à la fin, il y en a quelques-uns qui avaient renoncé. Il y avait comme pas le choix. La grogne était tellement forte qu'ils n'ont pas eu le choix de renoncer, mais le geste était là pareil. Tu sais, on était prêts à l'avoir, là, cette histoire-là. Tu sais, de bonnies et tout ce que tu voudras.
François, faut que je te laisse, mais t'es à l'antenne en fin de semaine, non?
Oui, midi à 16h avec Jeffrey Soubrani, samedi, dimanche après-midi, demain matin et dimanche matin avec Paul à 9h.
Excellent week-end.
À toi aussi. Au revoir.
17h38, les accros s'en viennent. On va parler de tournage de fiction en France.